Bonsoir à toutes et à tous, un nouveau numéro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Et puis ce soir, je suis particulièrement heureux parce que nous allons évoquer la vie, le parcours, l'œuvre aussi d'une certaine manière, d'un personnage insolite qui est né à Tonnerre. Le personnage en question, c'est le célèbre chevalier Déon. Et à cette occasion, nous recevons un des spécialistes du Chevalier Déon, Dominique Vianneau. Bonsoir.
Bonsoir et merci. Merci de m'avoir invité. Spécialiste, je mets un petit bémol, hein. Il y a beaucoup de spécialistes.
On va dire passionné du Chevalier Déon, en tout cas. Alors, vous êtes l'auteur aux éditions de Bourgogne d'une biographie qui a pour titre « Le secret du Chevalier Déon ». C'est une biographie qui est disponible aux éditions de Bourgogne depuis novembre 2012. Et Dominique Vianneau, dans un premier temps, quelle est votre histoire, quel est votre lien personnel, sentimental, avec le Chevalier Déon? Où est le lien intellectuel?
Oh, c'est un lien, oui, ancien, je dirais. J'ai beaucoup d'empathie pour le personnage après avoir lu sa propre biographie écrite par lui-même, parce que c'est un personnage qui, d'abord, écrivait beaucoup. Donc, c'est vrai qu'après l'avoir lu, oui, j'ai eu beaucoup d'empathie pour le personnage parce que dans la vie, alors c'est un lien intellectuel, hein, parce que dans la vie, à chacun de nous arrivent parfois des petits accidents. En l'occurrence, j'ai eu un petit accident, je dirais, de parcours, comme beaucoup dans le domaine de la presse, notamment de la télévision. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Je suis plongé dans la bibliothèque à retrouver ce personnage emblématique de la Bourgogne. Hein. Il faut quand même reconnaître que avec Colette, à mon avis, ce sont deux personnages emblématiques de la Bourgogne, en tout cas très 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 haut en couleur. Et donc, pour mieux connaître le personnage, que souvent on ne connaît que par le port de la robe, ce qui est extrêmement limité. Donc là, j'ai découvert un personnage duquel je suis tombé amoureux. Et c'est vrai que ça date, alors, pour ramener à peu près dans les années de 1997. Donc vous voyez, c'est pas récent. Et je vis toujours un petit peu avec lui.
Alors je manque à tous mes devoirs, parce qu'il faut quand même que je vous présente un peu à nos auditrices et auditeurs. Alors Dominique Vianneau, vous êtes diplômé de l'École nationale des beaux-arts de Dijon. Vous êtes journaliste. Vous avez travaillé à la radio, à France 3 Bourgogne et également à la TSR, la télévision suisse romande. Je dois quand même le dire, même si on peut le deviner, que vous êtes un passionné donc d'histoire, de théâtre et de personnages insolites. Et donc, Le secret du Chevalier Déon aux éditions de Bourgogne est votre première biographie. Vous êtes actuellement sur un autre projet littéraire, on n'en parle pas. En revanche, on va s'attacher au Chevalier Déon en rappelant qu'il est né à Tonnerre en 1728, il meurt en 1810. Et finalement, le Chevalier Déon appartient à la classe sociale de l'aristocratie, mais d'une aristocratie tout de même provinciale, peu fortunée.
Oui,
c'est pas une grande famille, les Déons.
Alors, je dirais oui et non. Localement, effectivement, c'est une famille quand même qui jouit d'une certaine importance, hein, et qui d'ailleurs a, je dirais, une certaine notabilité, notamment bien sûr à Tonnerre. Et cette notabilité est toujours connue à Tonnerre. Hein. Il suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, d'aller à Tonnerre. Et il y a même aujourd'hui les descendants, hein, du chevalier Déon, dont mon ami Philippe VIII, effectivement, qui assure toujours, je dirais, cette pérennité, hein, d'image. Bon. Mais le problème du chevalier, si on considère dans ce cas-là l'image au niveau national, c'est vrai, la cour étant à Versailles, avec tout ce que ça peut représenter comme amour de cour et comme réussite de cour, on est très loin de Tonnerre, et c'est vrai que ce qui lui coûtera, c'est cette notabilité pas suffisamment importante, cette ce côté noble de province va lui coûter sans doute le poste qu'il ambitionnait, mais pas seulement.
Alors, que font les parents du chevalier Déon ? Donc, son père, c'est Louis Déon de Beaumont, et puis on parlera de sa mère, Françoise Déon, qui, elle, est quand même plutôt une dévote, finalement.
Oui, c'est dévote, mais bon, c'était, je dirais, une famille avec les standards de l'époque. Hein. Lui, d'ailleurs, a occupé des postes importants, si on considère, je dirais, effectivement, ses fonctions. Ce qui sera dans le droit fil, d'ailleurs, du chevalier, parce que le chevalier va, malgré le fait qu'il est d'une petite extraction, on dira, noble, il a quand même, lui, dès le départ, un exemple qui est son père. Et puis, il a un autre exemple aussi qui est un oncle qui va suivre très vite. Et en fait, le chevalier, je reviens un petit peu, je ressens sur le chevalier par rapport notamment à ses parents, c'est que le chevalier, finalement, c'est une espèce de surdoué qui représente un peu, en gros, toute sa famille multipliée par 10 ou 1000, je ne sais pas, en plus doué d'une faculté de caméléon. Et donc, ce surdoué-là va se trouver être quand même le plus jeune, par exemple, avocat au Parlement de Paris, ce qui ne s'est jamais vu depuis, d'ailleurs. Donc, il est surdoué dans tous les domaines, épaulé par ses parents qui ont quand même une respectabilité, et par son oncle qui a également une fonction importante, mais qui va montrer très très vite des talents pour réussir à la fois dans les études et puis bien entendu dans cette facilité à aller dans le pouvoir, au cœur même du pouvoir.
Dominique Vianneau, concernant la mère du chevalier Déon, que l'on présente souvent comme une dévote, au point que le jeune chevalier Déon, enfant, dans l'hôtel d'Uzès, que les tonnerroises et tonnerrois connaissent, le petit chevalier Déon est toujours habillé en bleu ciel, qui est la couleur de la Vierge. Est-ce qu'il a été éduqué dans la culture religieuse ?
Oui.
Quelle éducation reçoit-il ? Outre le fait qu'il est brillant, surdoué, il est élevé dans les codes religieux de la démocratie de l'époque.
De l'époque, absolument, oui, qui était quand même nettement bien cadré. Effectivement, il y a dû avoir, je dirais, alors on en rajoute beaucoup, parce que dans les biographies lues, notamment sur lui, on rajoute beaucoup cette connotation des couleurs bleues, blanc couleur de la Vierge, etc., qui le conditionne. Enfin, il est vrai qu'il n'a pas été conditionné au port de la robe par le fait qu'il est porter les couleurs de la Vierge, si vous voulez, au tout début, ce qui était parfois un pont tendu pour certains biographes, extrêmement rapide, entre la dévotion de la mère, son culte à la Vierge, et puis le rapport entre le chevalier qui offre effectivement une image un peu virginale, mais aussi portant plus tard la robe. Mais bon, il est élevé dans la religion catholique, oui, bien sûr. Oui, tout à fait.
Il est incontournable de dire que c'est un enfant quand même qui est tourmenté, qui est moqué, parce qu'il a un prénom, un de ses prénoms, c'est un prénom féminin, c'est Geneviève. Et finalement, il a été quand même très, très contrarié dans son enfance tonnerroise.
Alors, c'est vrai. Le prénom de Geneviève lui est pas d'abord affublé en premier prénom. Il s'agit d'un prénom qu'on porte assez couramment à l'époque. On porte effectivement un prénom féminin parfois dans l'assemblage des différents prénoms masculins. Parce qu'on respecte dans les aïeux, parfois, justement, alors comme en l'occurrence, pour ne pas vexer cette fameuse Geneviève, on lui donne le prénom de sa tante. Mais c'est vrai qu'il n'est pas, pour autant, il y a un autre contexte, c'est qu'il est, il est plutôt fragile au départ, il a une voix un peu fluette, il a une constitution un peu fragile, il n'est pas très grand. Son comportement, son allure physique fait que, comme souvent parmi les enfants, il y a une certaine cruauté, donc son allure physique fait sans doute qu'il est l'objet d'un certain nombre de colibets, choses comme ça, voilà, c'est vrai. Pour autant, après, il se rattrapera.
Alors, il est passionné par les armes.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Il se rattrapera puisque il, alors là, avec beaucoup de conviction, beaucoup de force, il deviendra l'une des plus fines lames de son époque, ce qui était absolument inimaginable au moment de son adolescence. Et il y mettra effectivement beaucoup de courage, beaucoup de cœur pour lutter contre cette corpulence au départ qui n'est pas évidemment celle qu'il aura par la suite.
Dominique Vianneau, je rappelle que nous parlons de votre biographie du Chevalier d'Eon, parue aux éditions de Bourgogne, biographie qui a pour titre Le secret du Chevalier d'Eon. Si vous voulez bien, on marque une première pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes, toujours à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Et puis, on continuera à découvrir les aventures de cet insolite personnage qu'est le Chevalier d'Eon. On se retrouve dans quelques minutes, donc, avec notre invité. Le secret du Chevalier d'Eon par Dominique Vianneau aux éditions de Bourgogne. Alors, on a bien compris dans quel contexte avait grandi à l'hôtel d'Uzès, à Tonnerre, le jeune Chevalier d'Eon. Donc, garçon un peu moqué, mais garçon brillant, surdoué même. Vous insistez sur sur ce don intellectuel, ces dons intellectuels, dons aussi au combat, passionné des armes. Alors finalement, adolescent, que va-t-il faire de sa vie? Qu'est-ce que lui veut faire de sa vie? Est-ce qu'on lui laisse le choix de devenir ce qu'il souhaite être?
Au départ, non. Au départ, non, puisque en fait, on le contraint à des études dans un collège finalement très très loin de son enfance. Donc, on le coupe de son enfance, on le coupe finalement de tous ses liens. Il se retrouve un petit peu perdu. C'est vrai qu'au départ, c'est très très dur pour lui de subir, parce que c'est un petit peu ça. Il subit au départ des études auxquelles il s'était pas préparé, et donc c'est ton chez lequel il vit va lui apprendre finalement avec beaucoup de tact ce que peut lui apporter l'apprentissage d'un certain nombre d'études, de livres, etc. Donc il lui laisse sa bibliothèque. Finalement, il deviendra ce qu'il est, sans doute aussi parce qu'à l'adolescence, il n'a pas les mêmes tourments que d'autres. Il ne pense finalement qu'aux études, ensuite, qu'aux armes dont vous parliez, et pas du tout tourmenté par des histoires amoureuses. C'est donc le départ, je dirais, de quelqu'un qui va être studieux, travailleur, et qui n'aura aucune perturbation.
Alors, il écrit des ouvrages, alors je mentionne le titre, c'est époustouflant, je cite « Essai historique sur les différentes situations financières de la France sous Louis XIV et sous la régence du duc d'Orléans ». Et puis alors, il écrit un autre ouvrage intitulé « Considérations historiques et politiques sur les impôts égyptiens, des babyloniens, des perses, des grecs, des romains et sur les différentes situations de la France par rapport aux finances depuis l'établissement des francs jusqu'à présent ».
Donc, livres d'ailleurs, par parenthèse, qui ont servi encore jusqu'à récemment. Hein. Ce qui est étonnant, parce que quand je vous dis on ne connaît le chevalier d'Eon que sur cet aspect, ou pour les cruciverbistes sur le fait qu'il s'appelle Eon, ou pour le port de la robe, c'est vrai que c'est très limité, hein, alors qu'en réalité, dans chaque petite partie de ce qu'il a pratiqué, alors que ce soit par les armes, que ce soit effectivement surtout ses livres importants, hein, il y a toujours aujourd'hui même des ponts tendus, et sur notamment ces histoires d'impôts, je sais que ça a servi jusqu'à récemment, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré de ces textes et de cette analyse pour encore récemment appuyer justement toute une histoire de la fiscalité ou l'adapter.
Dominique Viano, votre biographie du Chevalier d'Eon a pour titre « Le secret du Chevalier d'Eon ». Évidemment, ça attire le lecteur, « Le secret du Chevalier d'Eon ». Parlons de la vie sentimentale du Chevalier d'Eon. Certes, effectivement, il a grandi à Tonnerre. Il y a finalement passé peu de temps à Tonnerre. Toute sa vie, né en 1728 jusqu'à sa mort en 1810, on ne peut pas dire qu'il ait vraiment hanté Tonnerre et le Tonnerrois.
Non, mais en revanche, il a été hanté par Tonnerre, c'est-à-dire qu'il a su quand même être le meilleur ambassadeur de Tonnerre à travers le monde. Mmh. Hein. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas passé l'enfance. Il est revenu à Tonnerre quelques temps, effectivement, après tout ce parcours. Mais oui, il a été sans doute un très bon ambassadeur. Il est resté tonnerrois.
Voilà. Alors vous écrivez, concernant la vie sentimentale de notre chevalier d'Eon, Dominique Viano, vous écrivez... On ne lui connaît aucune aventure amoureuse, pas même avec des garçons. Alors, qu'en est-il aussi de l'identité du chevalier d'Eon ? Chevalier, chevalière, c'est, j'allais dire, l'aspect insolite du personnage qui d'ailleurs fait peut-être aussi qu'il a laissé une véritable trace dans l'histoire, plus par son caractère, son identité insolite, ambiguë, floue, cultivée aussi d'une certaine manière.
C'est bien le malheur finalement, parce qu'on a retenu de lui que cet aspect extrêmement travesti...
Le paraître au lieu de l'être finalement.
Absolument, ouais. Alors Dieu merci finalement on a retenu que le paraître, et on peut découvrir après justement un personnage qui aurait pu être oublié. Il y a beaucoup de personnages de l'époque aussi cultivés, hein, des personnages brillants, hein, dont on a absolument perdu la trace, hein, ou le nom, à part quelques historiens qui effectivement peuvent de temps en temps nous donner des détails sur des personnages hauts en couleur, ils ont disparu. Lui est resté parce que l'espion, parce que porte de la robe, etc. Alors vous me demandiez de soulever sa robe pour vous dévoiler le secret. J'ai dit effectivement qu'on ne lui connaissait aucune aventure. C'est pas moi qui le dis, hein. D'abord je ne l'ai pas connu, mais dans tous les textes qui sont et les siens et ceux de ses contemporains, il n'y a pas d'aventure sentimentale. Il y a beaucoup de textes au XIXe siècle, donc après sa mort, et de beaucoup de biographes qui ont voulu lui greffer des histoires absolument invraisemblables, autant d'ailleurs avec la tsarine, par exemple, qu'avec même la reine d'Angleterre. Bon, tout ça tient de l'élucubration. Il est pratiquement prouvé, et ça c'est une théorie qui est défendue et par lui à l'époque et par d'autres aujourd'hui, qu'il était séraphique. Très joli nom, séraphique, ça vient de séraphin, hein, l'ange, donc il n'a aucune pulsion sexuelle. Il sait que ça existe. Il imagine par son entourage comment est-ce que ça se pratique, mais lui-même n'en a pas du tout de sensation.
Néanmoins, il y a bien une mode des déguisements, vous en parlez. Il serait venu au déguisement sous l'influence de l'abbé Grécourt ou de l'abbé Bernis, le fameux cardinal qui deviendra donc le ministre des Affaires étrangères de Louis XV. Il y a bien une mode de déguisement, mais ça c'est du jeu.
C'est Grécourt et Bernis, eux courent un peu les maisons closes, alors que le chevalier d'Eon, lui, court l'habillement uniquement pour des questions de travestissement, et non pas de travestissement à l'époque, qui était d'ailleurs assez courant. Hein. Ça a été interdit sous Louis XVI, mais il est vrai que l'homme se déguisait volontiers pour des bals masqués. Bon, on a demandé au chevalier de porter la robe parce qu'il avait aussi cette constitution et ce visage, hein, où il est glabre, enfin je veux dire, il n'a pas de. On on peut très bien lui faire porter la robe. C'est amusant, voilà. De dire que lui, après, aura des sensations, il les décrit comme étant des sensations qu'il imagine ou qu'il suppose, mais lui n'en a pas de réels effets. Je veux dire, il n'a pas de sensations sexuelles, en tout cas, à cette imagination.
C'est ce que vous appelez donc cette énigme de la chair ?
Moi, je ne l'appelle pas. Lui le décrit comme ça. Lui le dit souvent. Lui dit toujours que pour lui, d'ailleurs, et pour les autres, il est une énigme. Il en est profondément mortifié, parce que souvent, il aimerait être semblable aux autres. Mais s'il avait été semblable aux autres, il n'aurait pas pu devenir ce qu'il est aujourd'hui resté, c'est-à-dire cette image de personnage un peu. Alors, au risque de décevoir évidemment beaucoup de gens, parce que souvent, un certain nombre de congrégations, je dirais, ou de gens ont bien voulu s'accaparer le personnage pour dire « Ah ben, c'est bien, le chevalier Déon est formidable, c'est un travesti, c'est un transsexuel », enfin, on a tout entendu. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'au risque de décevoir effectivement toutes les communautés qui auraient bien voulu s'accaparer le personnage, je dis simplement qu'il est beaucoup plus simple, parce qu'il est séraphique. Alors, c'est vrai qu'on détruit le mythe. Ah oui, il n'y a plus par derrière. Ce qui, du reste, faisait son intérêt à l'époque, son intérêt déjà à la cour, où il y avait beaucoup d'ascension sociale qui se faisait quand même par le lit, il est de fait qu'on était très étonné devant ce personnage qui ne se prêtait à rien. Aujourd'hui encore, je dirais, ce qui fascine chez le personnage, c'est qu'on peut lui supposer des aventures absolument extraordinaires sexuellement, alors qu'en réalité, c'est le désert. Et c'est peut-être ça, finalement, qui peut être décevant d'un côté, mais enrichissant de l'autre, parce qu'il faut essayer de se mettre dans la peau d'un personnage qui n'a d'autre temps et d'autres passions dans la vie que l'étude, le travail, ses missions,
les armes,
et qui finalement n'a pas de temps perdu, alors perdu entre guillemets, hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'on perd du temps à l'amour, mais qui n'a pas de temps perdu dans des aventures parfois compliquées que chacun de nous peut connaître. Je veux dire, l'amour nous mange quand même une partie de notre quotidien.
Sur cette phrase grave, Dominique Viano, on va proposer une nouvelle pause musicale à nos auditrices et auditeurs. Je rappelle que nous sommes donc avec le biographe du Chevalier Déon, qui vient de faire paraître aux éditions de Bourgogne Le secret du Chevalier Déon. C'est Dominique Viano qui est ce soir devant notre micro. Je voudrais aussi d'ailleurs préciser que cette émission a été enregistrée au Relais Fleury à Avallon et remercier la direction du Relais Fleury de nous avoir accueillis pour évoquer et soulever avec vous, Dominique Viano, le secret et les jupons du Chevalier Déon. On se retrouve dans quelques minutes sur Radion pour la suite de Wagon Livre. Thank you. Dominique Vianneau est avec nous ce soir pour sa biographie intitulée « Le secret du chevalier Déon ». Je rappelle que le chevalier Déon est né à Tonnerre en 1728, qu'il meurt en 1810, je rappelle quand même, pour situer dans l'histoire. Alors parlons du chevalier Déon qui va mener des missions diplomatiques et qui très rapidement va gagner des galons d'agents secrets. Alors là encore, ça ajoute au personnage du mystère, de l'intrigue et de la passion.
Oui, parce qu'agent secret, le premier. Alors souvent, il lui accorde, enfin, il faut quand même attacher au personnage le fait et lui accorder le fait qu'il est premier. Alors premier partout. Je disais surdoué, il est premier pour être le plus jeune avocat au Parlement de Paris. Il est premier pour avoir, ben, vous le citiez tout à l'heure, hein, écrit des livres qui d'ailleurs ont laissé des traces jusqu'à aujourd'hui, notamment dans le calcul des impôts. Il est le premier également en maître d'armes à rivaliser avec les plus grands et à remporter ses duels. Il est le premier agent secret, évidemment, de Louis XV. Alors, pourquoi agent secret? Pourquoi les services secrets sont nés sous Louis XV? C'est assez facile à comprendre, puisque Louis XV est un personnage double, qu'il assoit, je dirais, sa faiblesse sur ses services secrets. C'est-à-dire qu'en réalité, lui, d'un côté, va diriger avec ses ministres et sa favorite de la manière où elle l'entend, et puis en secret va diriger la France comme lui l'entend, et il a besoin d'un personnage comme le chevalier pour être son interlocuteur direct.
Alors, la première mission diplomatique du chevalier Déon consiste à renouer avec la Russie. Alors, c'est parfois un peu complexe, Dominique Vianneau, quand on lit la biographie, on voit que les relations entre les monarchies à l'époque sont très compliquées. Pour faire simple, alors, quelles sont les relations de la France avec la Russie? Et la France a pour ennemi à l'époque l'Angleterre et l'Autriche. Oui, je vous ai bien lu, j'ai appris.
Absolument, oui, mais je vous dirais pas que... vous avez remarqué aussi que sur l'échiquier européen, les cartes changeaient assez fréquemment, que les alliances changeaient aussi, que les coups bas étaient permis, et que finalement, les alliances d'un temps sont certainement pas celles du lendemain. Cela étant... Je dirais pas que rien n'a changé, hein. Je dirais que dans l'échiquier politique, l'alliance avec la Russie, cet amour, je dirais, entre la France et la Russie, qui existe encore, hein, était très présent encore à l'époque, mais il y avait eu une sorte d'oubli, enfin je veux dire, on avait oublié de communiquer pour faire rapide entre la Russie et la France, et ça avait duré. Donc, Elisabeth, qui avait pris le pouvoir, et Elisabeth Petrovna, qui était franchement une impératrice haute en couleur aussi, qui avait pris le pouvoir après ma péripétie, enfin ça vous avez sans doute lu ce qu'il en est, parce que c'était très important de connaître le contexte russe, à ce moment-là, avait besoin de renouer, et Louis XV avait besoin de renouer avec la Russie. Donc, ça s'est fait, je dirais, grâce au chevalier, malgré le fait que la Russie était quadrillée par l'anglais, puisque l'anglais, lui, n'avait absolument pas laissé en jachère le terrain russe et avait justement mis en place en Russie un certain nombre d'espions. Chevalier va passer toutes ses frontières, va passer tous les maillons, je dirais, tendus par l'anglais et approcher l'impératrice. Et c'est grâce, effectivement, à ses robes.
C'est ça, c'est que le déguisement a son importance dans les missions secrètes de Déon, finalement.
Oui, parce que c'eût été un homme, il aurait été, comme d'ailleurs son collègue à l'époque, le chevalier Douglas, qui l'accompagnait, il aurait été raccompagné à la frontière, voire renvoyé en France. Mais une femme, d'abord, on y accordait peu d'importance. Et en même temps, seule une femme pouvait facilement approcher l'impératrice. Parce qu'au fond, l'impératrice, si on voulait résumer, n'avait que d'un côté des courtisans, en réalité, avec lesquels elle avait des plaisirs. Et puis, elle était entourée par des femmes. Et c'est vrai que la femme, finalement, représentait le moyen d'approcher et de délivrer le message de Louis XV à Elisabeth, ce qui a été le cas.
Donc, Déon a vraiment permis à la France de renouer des amitiés et des relations diplomatiques avec la Russie.
Ah oui, et puis il a permis aussi la signature des traités. Et il a permis aussi un certain nombre de signatures de traités qui ne nous auraient pas permis à l'époque, d'ailleurs, de briller à nouveau. Hein. Je veux dire, non, c'était là aussi, il a été le premier et le seul, d'ailleurs, interlocuteur avec l'impératrice et a renoué d'une manière extraordinaire, d'ailleurs, ce lien entre la France et la Russie.
Et le roi de France a bien compris que Déon aimait les armes au point qu'il le remercie. Bon, bien sûr, il lui offre une tabatière en or, mais il lui fait remettre un brevet de lieutenant de dragon. Oui, et Déon, finalement, aurait préféré être plutôt sur un champ de bataille que dans les salons de Saint-Pétersbourg à faire l'agent secret.
Ça, c'est son plus grand, effectivement, sa plus grande déception dans la vie, c'est de ne pas avoir été militaire, donc capitaine des dragons, certes, mais pour peu de temps dans sa vie. Et finalement, il aura plus fréquenté les ambassades, la cour, d'être, oui, l'homme de terrain qu'il a toujours rêvé d'être, c'est clair. La croix de Saint-Louis, d'ailleurs, qui lui a été remise, qui était la plus haute distinction. Hein. La croix de Saint-Louis, c'est la plus haute distinction française, en tout cas militaire, qu'on ait pu remettre. Il l'a obtenue et il la portait fièrement sur son corsage féminin, hein, jusqu'au bout.
Alors, les rumeurs sont omniprésentes dans la vie de Déon, et on revient justement à l'hermaphrodisme de Déon, l'hermaphrodisme supposé, parce que ce sont des rumeurs qui sont lancées par le comte de Guerchy, et c'est le début aussi d'une légende tenace. Finalement, pour essayer de faire tomber le chevalier Déon, un peu par jalousie, on raconte des choses terribles sur l'individu.
Alors, là, on repart en Angleterre. Donc, effectivement, le comte de Guerchy, pour faire rapide, c'est celui qui prend en lieu et place de ce qu'il espérait le poste d'ambassadeur de France à Londres. Bon, les Anglais ont une maladie qui les ronge encore aujourd'hui, c'est le pari. Alors c'est vrai qu'il n'y avait rien de mieux que de laisser un doute sur le sexe du chevalier, dont l'hermaphrodisme présumé. Donc les paris vont bon train, si on peut dire. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, les sommes deviennent colossales. Ça devient une véritable affaire en Angleterre que les paris qui vont sur le sexe du chevalier. Donc, il est de fait que sur cette toile de fond anglaise, où les paris ont une importance considérable, gonfle cette idée qu'il était un homme, qu'il était une femme, qu'il était hermaphrodite. En réalité, tout est parti de là. Et le chevalier, il faut aussi bien dire, que joue le jeu, puisque lui, finalement, subit une déconvenue terrible avec cette nomination d'ambassadeur avec lequel il va faire une guerre, d'ailleurs, jusqu'au bout. Il va lutter avec des épigrammes contre lui, en fait, etc. C'est vrai qu'à ce moment-là, le chevalier joue aussi de ça et dit, finalement, peut-être suis-je, peut-être ne suis-je pas, je porterai la robe quoi qu'il arrive. Parce qu'au fond, la robe, il l'avait portée pour des missions bien précises. On ne lui demandait plus de porter la robe ensuite. Mais lui continuera à le faire, comme pour dire « Je vous ai servi, j'ai servi la France dans cette robe et je voudrais que reconnaissance soit pour que je la quitte, en fait. »
Et ce qui est incroyable, c'est qu'en Angleterre, où se trouve le chevalier Déon après l'épisode russe, certains envisagent même de l'enlever pour découvrir par eux-mêmes si le chevalier était bien un homme.
Oui, sa propre nature. Mais il est de fait que là, c'était très compliqué d'enlever le chevalier, parce qu'il faut voir un personnage qui était un grand maître d'armes et qui avait su s'entourer aussi d'un certain nombre de matelots et de gens des bas-fonds londoniens pour être une sorte de garde prétorienne autour de lui. Donc, impossible d'approcher ou de toucher, je dirais, le chevalier.
Donc, à Londres, Déon sera secrétaire de l'ambassadeur de France. Le roi lui interdit d'ailleurs de quitter l'Angleterre, parce que Déon aimerait quand même bien revenir en France. Pourquoi finalement veut-on absolument laisser Déon à Londres? Parce que c'est ses talents de...
D'abord, au départ, c'est bien expliqué. Le roi craint les dépêches de l'ambassadeur d'Angleterre en titre, c'est-à-dire le comte de Guerchy, qui est bourguignon, hein, par ailleurs. Hein. Le comte de Guerchy, parce que il craint ces nouvelles comme le feu, parce qu'en réalité, on dit en fait à Déon qu'il faut qu'il soit le porte-plume de l'ambassadeur. En gros, l'ambassadeur, qui a été nommé surtout par les grâces de sa femme, finalement, n'a peut-être pas, je dirais, l'étoffe d'ambassadeur, donc il faut par derrière le chevalier. Mais il est de fait que le chevalier Déon peut-être finit par être un peu excédé, par d'être toujours dans l'ombre. C'est ça son gros problème. Et il est une nouvelle fois dans l'ombre, en fait, à tenir le porte-plume que l'ambassadeur, lui, ne tient pas.
Et pourtant, Déon entretient une relation épistolaire assez étroite avec Louis XV, et Déon possède des papiers secrets. Donc c'est vraiment une pièce maîtresse, quand même, dans le jeu diplomatique français.
Oui, il y a beaucoup de choses importantes, mais il faut savoir que Louis XV avait programmé, par exemple, dans les papiers secrets, un débarquement en Angleterre. Donc ce débarquement qui avait été calculé par le chevalier lui-même, point par point, sur toute la zone stratégique du débarquement anglais, enfin, France en Angleterre, est détenu par Déon. C'est vrai qu'il y a des papiers qui sont hautement stratégiques et qui sont hautement dangereux pour la paix, entre guillemets, entre les deux pays. Déon avait des papiers. Néanmoins, il jouera quand même dessus aussi longtemps que possible pour maintenir à la fois son poste et bien entendu ses prétendues, rentes. Il faut quand même aussi, Déon est très dépensier. Donc il a besoin tout autour de lui. Ça aussi, c'est un point qu'on n'a pas beaucoup soulevé, mais c'est vrai que Déon dépense beaucoup. Il dépense énormément et il a besoin de s'entourer de livres, d'hommes, de femmes, de gens tout autour de lui. Il a besoin de serviteurs, il a besoin de luxe. Voilà, c'est un peu aussi sa manière d'exister.
Dominique Viennot, en début d'émission, vous disiez qu'effectivement, le chevalier Déon a vraisemblablement toujours eu un lien étroit avec Tonnerre. Et c'est vrai qu'en Angleterre, quand même, il fait connaître le vin de Tonnerre. Je crois qu'il l'a fait connaître en Russie, mais également aussi en Angleterre.
Oui, partout. Et le vin de Tonnerre. Tonnerre est présent. Présent toujours. C'est le meilleur ambassadeur de Tonnerre. Et c'est vrai que les Tonnerrois lui rendent bien, même aujourd'hui. À Tonnerre, tout le monde est sensible au chevalier. Tout le monde connaît l'histoire du chevalier. C'est un lien, intemporel, quoi. Tonnerre et le chevalier, c'est pratiquement indissociable. Et c'est vrai que, autant en cour de Russie que la cour d'Angleterre, le vin de Tonnerre a su couler dans différents verres grâce au chevalier.
Dominique Viennot, on se retrouve dans quelques minutes pour continuer à évoquer la vie et l'œuvre diplomatique et militaire du chevalier Déon. Le moment est venu d'accueillir notre libraire partenaire qui, comme chaque mercredi, nous dévoile un coup de cœur. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir Yannick, bonsoir à toutes et à tous.
Quel est le coup de cœur de la semaine ?
Alors après le chevalier Déon, on va enchaîner avec un autre grand personnage bourguignon, le seigneur de Bazoches, alias Vauban. Un roman qui s'appelle Victus, Barcelone 1714, écrit par un Espagnol, Albert Sanchez Pignol, qui avait fait notamment La peau froide, qui avait été très remarquée à l'époque. Là, il s'agit d'un roman historique. Tout commence en 1705. Un jeune homme, qu'on va appeler Zuvi, parce qu'il a un nom espagnol que je ne prononce pas très bien, donc Zuvi, est un adolescent qui est formé chez les moines à Lyon, mais c'est aussi un sérieux bambochard, et il finit par se faire virer de chez les moines parce qu'il a emprunté un corbillard pour rentrer de Beuverie, et puis il a eu un accident. Enfin bon, ça s'est pas très bien passé, les moines lui en veulent, et on lui dit, t'es puni, tu pars à Bazoches te former avec Vauban, on te prévient, il est pas commode. Effectivement, cet apprentissage va pas être très commode, c'est très cocasse, c'est très drôle à lire, c'est un gros roman historique, donc ça commence à Bazoches, essentiellement, tout premier tiers est à Bazoches, on suit l'éducation d'un ingénieur militaire. Donc c'est vraiment passionnant, en plus on apprend plein de choses vraiment, vraiment chouettes. Et ensuite on part sur les guerres de succession en Espagne, pourquoi les Autrichiens se battent contre les Anglais, toutes ces choses qui nous paraissent assez improbables, c'est une espèce de guerre mondiale, on n'en a plus conscience aujourd'hui, mais des guerres mondiales il y en a eu avant le XXe siècle, donc là au XVIIIe, et ça se terminera dans le sang, puisque c'est le siège de Barcelone, Sanchez Pignol est barcelonais, et ça explique aussi la rivalité entre les Castillans et les Barcelonais, encore aujourd'hui en Espagne. Voilà, donc un gros roman historique, vraiment facile à lire pour les gens qui aiment les aventures un peu picaresques comme ça, très très cocasses, assez irrévérencieux envers tout le monde, comme toujours avec Sanchez Pignol. Un bon moment de lecture.
Avec en plus, j'ai lu à la fin un guide des personnages, des rappels historiques qui permet quand même de suivre, il y a des plans également. Enfin, un véritable univers historique pour les passionnés d'aventures picaresques. Donc c'est Wictus, Barcelone 1714, c'est un roman paru chez Actes Sud d'Albert Sanchez Pignol et c'est traduit de l'espagnol par Marianne Millon. Un petit point peut-être avec toi, Evelyne, sur les meilleures ventes de la semaine.
Alors, les fidèles et les auditeurs de Wagon Livre ont, comme la semaine dernière, choisi Immortelle Randonnée.
Encore et toujours.
Très très beau succès. Ensuite, c'est Le Prédicateur de Camilla Läckberg qui vient d'arriver en poche, au rayon policier poche. Petite Poussette, le Michel Serres, qui continue de se vendre depuis presque 6 mois, toujours dans les meilleures ventes chez nous. Une nouveauté, le nouveau Michael Connelly, Le Cinquième Témoin. Et enfin, Les Oranges ne sont pas les seuls fruits en poche. Là, c'est un petit plaisir personnel parce que c'est un coup de cœur de la librairie. Janet Winterson aux éditions Point.
Et L'Écume des Jours se vend
toujours très bien, mais dans multiples éditions, donc je ne l'ai pas mis parce que voilà. C'est vraiment le film, relance vraiment la passionnariat autour de ce texte. Tout le monde veut relire le livre.
Merci Evelyne pour ce coup de cœur. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau coup de cœur et un autre conseil de lecture pour les auditrices et auditeurs de Radio Anne. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir Yannick, bonsoir à toutes et à tous.
On se retrouve avec Dominique Viano d'ici quelques minutes, le temps pour nous de marquer une nouvelle pause musicale.
Dis maman, pourquoi je suis pas un garçon ?
Le secret du Chevalier Léon, Dominique Viano, vous en êtes l'auteur. C'est une biographie disponible aux éditions de Bourgogne. Alors, bien sûr, on ne peut pas tout raconter ce soir, mais si on veut en savoir plus, bien évidemment, les auditrices et auditeurs savent qu'ils peuvent se procurer votre biographie aux éditions de Bourgogne pour partir à la rencontre du secret, des secrets, des différentes facettes du Chevalier Déon qui nous occupe ce soir. Le Chevalier Déon va rencontrer Beaumarchais, grande figure littéraire du XVIIIe siècle. Alors, Beaumarchais a été amoureux du Chevalier Déon.
Ah, c'est toute une, c'est une très belle histoire, en fait, parce que Beaumarchais, au départ, vient pour récupérer les fameux papiers secrets dont le chevalier prétend encore en avoir, qui pourraient jugement nuire au roi. Alors le roi en titre à ce moment-là n'est pas au courant effectivement de la réalité de ces papiers de son ancêtre, enfin de son aïeul, je veux dire, Louis XVI, donc n'est pas au courant de tout. En revanche, Beaumarchais arrive, et c'est vrai que Beaumarchais a... C'est d'abord un aventurier, Beaumarchais, autant que l'est le Chevalier Déon. Je dirais que de ce point de vue, ils ont un point commun. Et ils ont d'ailleurs un double point commun, parce que Bourguignon également. Donc il y a... et ils se retrouveront plus tard. Enfin, moi, je fais plein de points, parce qu'il y a des points extraordinaires entre Beaumarchais et Chevalier Déon. Ils se retrouveront plus tard, puisque Beaumarchais, ruiné, je dirais, ne sera plus qu'adjudicataire de forêt à côté de Tonnerre. Et donc, ils vont se retrouver au moment où Déon repassera un petit peu en France, avant de rejoindre l'Angleterre, justement en Tonnerrois. Et c'est vrai que cette histoire de deux flamboyants, hein, l'un veut imposer sa loi, l'autre dit que finalement il est plus rusé, enfin il faut imaginer deux personnages très très rusés, l'un, autant l'un que l'autre, discuter. L'un veut récupérer des papiers pour pouvoir briller auprès du roi, l'autre ne veut pas céder les papiers parce qu'il se dit finalement, si je cède mes papiers, ben, après je tombe dans l'anonymat. Il y a donc, je ne sais pas, je pense que le chevalier, d'ailleurs, a beaucoup insisté là-dessus. Il y a une histoire naissante d'amour. Alors, d'amour, parce que le chevalier, d'abord, est présenté comme une chevalière, hein, que quand Beaumarchais arrive en Angleterre, il rencontre une femme un peu corpulente, hein, mais néanmoins toujours avec ce regard, cette façon d'enjôler les gens. Donc, il y a aussi un discours intellectuel qui se fait entre les deux. Donc, il y a sans doute une histoire amoureuse, en tout cas très intellectuelle, qui se développe entre eux, et une espèce de combat comme ça, intellectuel, qui se développe entre eux. Donc, le mariage est annoncé. D'ailleurs, on dit à un moment, ben Beaumarchais alors, va donc se marier avec la chevalière. En fait, c'est elle, enfin c'est lui, enfin c'est le chevalier qui fait croire, vous voyez, on s'y perd, hein. C'est elle et lui, enfin c'est le chevalier qui fait croire effectivement que Beaumarchais veut l'épouser, que Beaumarchais, etc., et qui fait croire ensuite, d'ailleurs, à une grande rupture, vous savez, une rupture amoureuse. En fait, en réalité, c'est vraiment une histoire de couple, parce que ils se connaissent, ils s'apprécient, ils ont une, je vous disais, ils sont flamboyants l'un et l'autre, ils s'aiment, ils ont presque envie de se marier. Enfin, cette histoire de mariage, Beaumarchais la laisse aussi flotter dans l'air. Hein. Et puis après, il y a une rupture parce que finalement, le chevalier lui donne pas les papiers, parce que Beaumarchais sent qu'il s'est fait avoir lors d'une fameuse transaction. Et cette fameuse transaction qui est expliquée dans le livre donne lieu, évidemment, à un retour de bâton, parce que Beaumarchais lui-même n'a pas réussi sa mission. Il s'est fait, entre guillemets, rouler dans la farine par la chevalière. Et donc cette fameuse histoire de couple se soldera d'ailleurs par des dîners quand le chevalier reviendra en Tonnerrois, ce que je vous disais, juste avant de rejoindre l'Angleterre définitivement, et que Beaumarchais lui-même n'aura plus aucune fonction importante. Donc c'est une grande histoire, oui, je crois, intellectuelle entre deux hommes brillants.
Alors, après l'épisode britannique, le chevalier Déon revient en France en 1777, il a alors 49 ans, et de retour en France, on lui demande de s'habiller en femme. On ne veut plus qu'il porte ses habits, finalement, de militaire, de dragon. Donc.
Oui, parce que pour recadrer, en fait, Louis XVI d'abord interdit le travestissement. Donc déjà, globalement, le travestissement n'est plus de mise. Que Louis XVI n'est pas au courant de la nature du chevalier, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que effectivement, on pourrait toujours dire, après tout, il y a des actes de naissance, etc. Louis XVI n'est pas au courant. Son aïeul a employé au secret quelqu'un qui est resté dans le secret sous un habit. Donc quand Louis XVI constate que la chevalière, qui se fait d'ailleurs appeler chevalière en Angleterre pour les raisons dont on a parlé, c'est-à-dire à cause des paris et à cause du fait que, au fond, par orgueil et aussi pour pas tomber dans l'anonymat, mieux valait continuer à porter la robe, naturellement Louis XVI, pour lui, c'est acquis, c'est une femme. Donc il faut qu'une femme s'habille en femme. Il n'est pas question qu'un chevalier, aussi capitaine des dragons soit-il, soit effectivement une femme habillée en homme.
Alors, le chevalier Déon retourne voir sa mère à Tonnerre. Finalement, vous écrivez dans votre biographie du chevalier que Déon n'aura vu qu'une seule fois sa mère en 24 ans. C'est incroyable.
Oui. Et oui, parce que tous ces déplacements, autant en Russie qu'en Angleterre, on n'avait quand même pas les moyens, comme aujourd'hui, à la fois de faire parvenir une information et de se déplacer. C'est sûr que sa mère, il ne l'aura vu qu'effectivement. Et c'est un épisode très, très fort, en plus, de retrouver sa mère à ce moment-là.
Je rappelle qu'on parle du secret du chevalier Déon, biographie du célèbre personnage rédigé par Dominique Viano, biographie disponible aux éditions de Bourgogne. Le moment est venu de parler de la fin de vie du chevalier Déon, qui est une fin de vie vraiment triste. C'est assez déprimant d'ailleurs quand on pense au prestige qui entourait, prestige, mystère qui ont entouré ce personnage. Alors, il va désobéir, il va s'habiller en dragon. Il est arrêté en mars 1779 et il est incarcéré à Dijon. Il est libéré, il retourne auprès de sa mère à Tonnerre. Et puis, le chevalier Déon n'échappe pas à l'effervescence révolutionnaire, éclate la Révolution française. Et au moment où éclate la Révolution française, Déon est à nouveau en Grande-Bretagne, en Angleterre. Il faut dire aussi qu'il avait pas mal de livres à récupérer. Hein. Vous citez même qu'il y avait 8000 volumes dans sa bibliothèque. Ouais. Alors, la fin du chevalier Déon, parce qu'en 1792, il est quand même finalement sur la liste des émigrés. C'est-à-dire qu'il est mal perçu. Quoi. C'est un aristocrate pour les révolutionnaires de 89.
Oui, puis il a servi le roi. C'est à la fois bien et mauvais, cette fin de vie. D'abord, citez-moi une fin de vie formidable. Je veux dire, même parmi les gens qui vivraient dans les dorures, je dirais toutes les fins de vie sont toujours des naufrages, comme dirait Général de Gaulle, qui avait dit que c'est la fin de vie. Non, je pense que la fin de vie, finalement, c'est vrai que, globalement, il est dans une semi-misère. On ne peut pas dire qu'il soit dans la misère complète. D'ailleurs, le cardinal de Bernis, lui, finira dans une misère complète, alors qu'il fut ministre des Affaires étrangères. Enfin, je veux dire, les fins de vie, parfois, dans ces époques où on pouvait arriver au sommet et retomber, évidemment, dans l'anonymat le plus total, ça peut arriver aujourd'hui, hein, encore. C'est pas non plus exclu. Peut-être, d'ailleurs, est-ce plus encore d'actualité aujourd'hui que ça ne le fut au XXe siècle. Hein. Enfin bon, passons là-dessus. Je dirais, le chevalier, effectivement, lui, a une fin de vie. Alors, d'abord, il n'a pas eu tête coupée. Donc déjà, il échappe à la Révolution. Dans une espèce de cécité, il propose quand même ses services aux révolutionnaires.
Lui, en fait, oui.
Lui, ce qui est extraordinaire chez lui, c'est la France. En fait, ce qu'il veut, c'est un serviteur de la France. Alors, quel que soit le régime, il se porte toujours...
Il y a un côté Talleyrand, un peu, finalement.
Oui, mais Talleyrand était moins frondeur. Déon a une caractéristique qui était extraordinaire, c'est effectivement d'être à beaucoup d'humour, mais d'humour un peu grinçant parfois sur les grands de ce monde dont il ne se cache pas. Ce que Talleyrand ne fera jamais. Hein. Je veux dire, Talleyrand aura toujours cette faculté de pouvoir effectivement aller d'un régime à l'autre. Ce que Déon a, je dirais, presque, comme il disait, c'est des pierres à silex comme les tonnerrois, qui sont des pierres à silex qui font feu dès qu'on les frotte. Hein. Je veux dire, c'est un peu un personnage quand même extrêmement, qui n'a pas beaucoup de concessions finalement, beaucoup d'humour, mais très peu de concessions, à la fois avec lui-même, mais aussi avec les autres. Donc, voilà, bon, il traverse ces époques. Ce que je voulais dire, ce qui n'est pas ce qui fait partie des dernières archives, hein, je dirais, du chevalier, qui ont d'ailleurs été ramenées depuis peu par Philippe VIII, son descendant. Il est de fait que on sait maintenant qu'il a aussi été le premier à faire, par exemple, une tournée en cirque en Angleterre pour avoir des subsides, hein, pour gagner de l'argent, une sorte de grand cirque, genre Barnum, vous voyez, qui fait le tour de l'Angleterre. Il a vécu de duels jusqu'à fort tard, donc avec des duels avec beaucoup de publicité autour, donc on lui donnait beaucoup d'argent, en tout cas de l'argent pour ça. Il a vécu aussi parce que le prince de Galles notamment lui a permis d'avoir quelques subsides pour exister, je veux dire, et pour continuer d'exister. Et puis en fait, il a vécu, et c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'il a rencontré une veuve d'un amiral anglais qu'il a toujours pris pour une amie et avec lequel il a eu une colocation, entre guillemets, jusqu'à la fin de ses jours. Et donc cette fin qui est à la fois, effectivement, par rapport à l'ampleur du personnage, à la vérité du personnage, son côté brillant était peut-être un peu terne, mais néanmoins, il a vécu fort longtemps, hein, et finalement, il a échappé d'ailleurs au tourment de la Révolution. Et il est mort à l'apogée de l'Empire.
À plus de 80 ans. Alors en 1804, il est emprisonné pour dette. Il signera un contrat avec un éditeur pour son autobiographie. Et puis il y a cet accident vasculaire qui va le clouer au lit, qui va faire de lui un grabataire pendant 4 ans jusqu'à...
C'est ça. C'est là où je vous dis, finalement, toutes les fins de vie sont jamais très agréables. Et je dirais quelque part, au fond, effectivement, il avait signé
un contrat
avec un éditeur. Il dépensait aussi quand même un peu. Hein. Il a toujours été un peu dépensier. Donc c'est vrai, comme les revenus étaient moins importants, il a été obligé de réduire son train de vie. Néanmoins, il a quand même été jusqu'au bout, je dirais, somme toute aidé. Hein, par beaucoup de... Je fais une petite parenthèse parce que c'est pas signalé dans le livre, mais quand je vous disais premier partout, c'est qu'il a été aussi premier, c'est très très anecdotique parce que c'est aussi d'ailleurs ce qui lui a permis d'être en Angleterre, hein, à Londres, aidé parmi les immigrants jusqu'au bout, hein, soutenu notamment par le prince de Galles, c'est qu'il a été la première femme franc-maçon. C'est assez drôle, parce que en réalité, c'était la première femme franc-maçon, alors que, bon, c'était un homme.
Dominique Viano, merci d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer ce personnage hors du commun. C'est évident, il est exceptionnel, le chevalier d'Eon, que vous présentez donc dans cette biographie, Le secret du chevalier d'Eon, aux éditions de Bourgogne. Je rappelle aussi que nous avons enregistré cette émission au Relais Fleury à Avallon, et on en remercie la direction. Et puis, j'espère que nos auditrices et auditeurs vont aller se plonger plus profondément dans ce secret du chevalier d'Eon. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous, Dominique Viano.
C'est moi qui vous remercie.
Bonsoir.
Très bon moment, merci.
Thank you.